Interview.
1 du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr et en compagnie de la communauté de communes avec son représentant élu Jean-Pierre Rouit, bonjour.
Bonjour.
Et son technicien Philippe Méjean, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler déchets, c'est une habitude avec vous deux, en tout cas à cette antenne. L'occasion de se faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces dernières années sur la collecte des déchets et plus particulièrement aujourd'hui sur la question du papier.
Oui, donc sur le territoire, on a effectivement mis une collecte dédiée au papier et donc on s'aperçoit que pour nous, cette collecte marche quand même bien. Mais elle marche bien grâce à vous. Qui tous les jours faites le bon tri. Voilà. Et pour ce faire, on s'est équipé d'un camion qui peut compacter le papier. Ce n'est pas tous les camions qui peuvent effectivement compacter ce fameux papier, parce que quand on le compacte, il y a une pression qui se fait sur l'ossature du camion. Et donc c'est un camion renforcé que nous avons pu acheter avec des aides que nous avons pu bénéficier. Mais là, au niveau des aides, je vais tout de suite passer la parole à Philippe.
Juste avant, cette collecte de papier se faisait dans des camions en vrac au départ.
Oui, au départ c'était primaire. Donc c'était les consignes de tri qui arrivent et on nous dit voilà, il faut collecter le papier. Donc c'était primaire, on faisait ça un petit peu à la ramasse. Et aujourd'hui, on est vraiment bien organisé, et on a un territoire qui fait école, parce que sur beaucoup de domaines, au niveau déchets, on a des visites, des personnes de d'autres territoires qui viennent nous voir. Mais nous, au départ, on avait fait ce principe, on était allé se renseigner sur d'autres territoires. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est quand même pas si mauvais que ça. Le Diwa, grâce à tout le Diwa, on est quand même bien performant.
Ça redevient donc un territoire école après avoir pris école ailleurs, quoi. Dernière chose, vous parliez d'une forte collecte sur le papier, donc ça veut dire que le territoire joue cette carte du recyclage. Ça a augmenté comme ça, ça s'est arrivé
Oui, mais le territoire peut mieux faire. Voilà, on n'est jamais en haut, hein. Il faut toujours se remettre en question. On peut encore mieux faire, mais c'est déjà pas mal.
Ça fait beaucoup de questions, tout ça. On va essayer d'y répondre dans l'ordre. Donc, le papier est collecté environ depuis 1998 sur le Diwa. Effectivement, c'était collecté en benne ouverte, donc avec une grue qui déchargeait les colonnes que vous pouvez voir dans chaque village. Donc, on mettait 2-3 tonnes maximum dans ces bennes. Le camion compacteur qu'on a acheté donc en 2017 est un camion qui permet de charger jusqu'à 8,5 tonnes, 9 tonnes d'un coup, donc sans remorque, hein, parce qu'avant on mettait dans le camion 2 tonnes, 2, 3 tonnes et puis on changeait de benne et on la remplissait de nouveau et on emmenait les deux bennes donc à coût de 6 tonnes à Valence. Là on peut amener 9 tonnes d'un coup, donc c'est un progrès avec un camion beaucoup plus maniable, beaucoup plus rapide également puisqu'il est semi-automatisé pour faire les déchargements de colonnes. Et pour développer cette collecte de papier, nous avons eu 2 aides coup sur coup de l'organisme qui s'appelait auparavant Ecofolio. Donc quand vous achetez du papier, vous payez une participation, comme quand vous achetez un emballage, une petite participation qui est regroupée au niveau national et qui est redistribuée ensuite pour faciliter d'un côté la collecte chez les collectivités, de l'autre côté le tri dans les organismes de tri et en amont éventuellement l'éco-conception des matériaux, voilà, et des emballages. Et donc on a eu coup sur coup deux réponses positives à des appels à projets auxquels nous avions répondu auprès de Citeo. Donc une première réponse pour 100 000 euros en 2014 qui nous a permis de développer les colonnes de tri sélectif qui sont passées de 80 à 130 environ, 135 sur le territoire. En 3 ans, jusqu'en 2017. Et on va renforcer encore d'une quinzaine de colonnes, donc en allant notamment dans les campings et sur des points qui n'étaient pas complètement dotés. Donc grâce à un deuxième appel à projet où on a eu aussi 100 000 euros qui financent à la fois ces 15 nouvelles colonnes, le renouvellement du tiers du parc, parce qu'il est arrivé à échéance, une partie de l'achat du camion, et puis un peu de communication. Voilà, donc ça, pour pas grand-chose, mais... Donc 100 000 euros qui viennent sur le territoire grâce aux réponses à ces deux appels à projets, donc deux fois 100 000 euros en 3 ans, qui nous ont aidés à développer ce tri des papiers. Alors, effectivement, dans ces colonnes bleues, on trouve des papiers, on trouve des cartonnettes, hein, des emballages de pots de yaourt, ou voilà, des cartons, ce qu'on appelle les cartons fins. Et il y avait 244 tonnes collectées en 2014 dans ces colonnes, qui sont plutôt bien triées. Il y a 4-5% d'erreurs de tri là-dedans. Et cette fin d'année, on va flirter avec les 400 tonnes. Je pense, entre 380 et 400 tonnes, on attend les résultats. Donc c'est une progression de plus de 50%.
Comment elle s'explique ?
Alors, parce que les gens trient plus et mieux. Plus on offre de possibilités de tri, donc en multipliant le nombre de colonnes à proximité des foyers, plus les gens trient. La communication également, les bonnes habitudes se prennent en discutant entre voisins, et puis au fur et à mesure qu'on offre le service et qu'on l'explique, ça marche mieux. Et du coup, ben, ça donne d'excellents résultats. Aujourd'hui, on estime que le gisement de papier et cartonnettes du territoire est trié à plus de 80%, alors qu'il l'était à 55% il y a 4 ans de ça. Donc c'est un énorme progrès. Voilà. Alors il reste effectivement entre 15 et 20% de papier triable, qui n'est pas trié, à aller chercher. On le retrouve un peu mélangé dans les cartons en déchetterie. Alors ça, c'est une nouveauté de l'année aussi. On a systématisé dans les déchetteries des colonnes papier à côté des bennes à carton. Parce que les gens amenaient souvent des papiers dans leurs cartons. On ne leur disait pas séparer-les parce qu'on n'avait pas les colonnes à côté. Ça allait dans les bennes à carton, mais c'était perdu. Ça ne va pas au même endroit. Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'on communique beaucoup là-dessus depuis 2 ans. Les cartons bruns, les cartons ondulés, qu'ils soient grands ou petits, c'est bien de les mettre en déchetterie et pas dans les colonnes. Pourquoi c'est bien de les mettre en déchetterie ? Parce qu'une fois en déchetterie, ils vont nous rapporter 3 fois. Ils vont rapporter, on les vend, 120 euros la tonne déjà, ça c'est un prix de vente. Ils sont aidés par l'éco-organisme qui a remplacé Ecofolio et Eco-Emballage, qui s'appelle désormais Citeo, qui nous soutient. Ils sont valorisés, donc ils nous donnent une prime en plus. On ne les envoie pas sur la chaîne de tri, c'est-à-dire qu'on ne paye pas le tri de ces cartons. Ils sont envoyés à Valence, à Port-les-Valence, au Citrad, où ils sont compactés, simplement, et ensuite expédiés dans le nord de Rome, sur l'usine Émain-Lédier, donc au nord de Saint-Vallier. Et donc c'est un recyclage local qui coûte moins cher. Si vous les jetez dans les colonnes bleues, ces cartons, avec le papier, ils vont passer, déjà ils risquent de les bloquer. Ils occupent avec 10% ou 15% du poids, ils occupent 50% du volume. Donc ça nous oblige à passer plus souvent en collecte. Ça bloque les mécanismes d'ouverture et de fermeture des colonnes. Donc les agents, des fois, doivent tirer dessus à l'appel, enfin, des fois des situations mal commodes, voire dangereuses. Ensuite, sur la chaîne de tri, ils nous coûtent, parce qu'on va payer le tri de ces cartons. Ils bloquent également la chaîne de tri. Et c'est donc au total une mauvaise opération que de les mettre dans les colonnes bleues.
Pour finir par être compacté exactement au même endroit.
Ah, mais ils finissent au même endroit et renvoyés à la même adresse, mais en ayant bourré les chaînes, les colonnes et les camions inutilement. Voilà.
Bon, on parlait des volumes perdus, alors on va exclure les cartons finalement de ces 20% qui manquent. Mais une dernière question sur les cartons, la plupart finissent dans la colonne de tri jaune.
Non. Il y en a quelques-uns dans la colonne de tri jaune. On va refaire des mesures, mais il y en a une dizaine de pourcents du poids. C'est pas dramatique. Alors, on les récupère aussi, ceux-là, sur la chaîne de tri. Ils finissent aussi sur le même tas au Citrad. Mais il vaut mieux les apporter directement en déchetterie parce que là aussi, ça bloque les chaînes. Ça fait double manœuvre pour les gens qui trient sur les chaînes. Et c'est un surcoût général pour la collectivité.
Alors bon, je m'adresse à l'élu, mais peut-être aussi aux techniciens. Vous avez quand même des retours de gens là qui ne veulent pas aller en déchetterie, qui ne prennent pas ce temps-là, et aussi des retours sur des communes avec de la décharge au niveau des locales poubelles voilà, en espérant bien qu'il y a bien un employé communal qui va la ramasser.
Oui, 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 on est souvent confronté à ce phénomène-là, et nos agents qui sont sur le terrain sont équipés de moyens aujourd'hui, de téléphones, ils peuvent faire des photos et ils communiquent systématiquement avec les services, et parfois il y a des courriers qui partent, parce que quand l'agent fait une photo, souvent il y a un nom, une adresse. Et alors là, on sollicite le maire, les maires, les élus, et en disant, voilà, il faut envoyer un courrier à cette personne-là, parce que ça ne va pas du tout. Et en général, souvent, c'est pas de ma faute, excusez-moi, voilà. Mais on s'aperçoit aussi que le bon tri, les bons gestes de tri, ça part aujourd'hui dans les écoles, les enfants. Les enfants, là, ils sont vraiment briefés pour ça. Et souvent, ils reprochent aux parents, justement, de ne pas être équipés dans la cuisine, dans certains lieux, pas d'être équipés pour les bons gestes de tri. Voilà. Mais c'est vrai que nos agents sur le terrain, dès qu'ils ont comme ça une incivilité, il faut remonter l'info. Et à ce niveau-là, les communes jouent le jeu. Sur le territoire, on n'a vraiment pas à se plaindre.
Et alors, comment on pourrait faire pour les personnes qui ne peuvent pas aller en déchetterie? Il y a toujours un arrangement entre voisins, peut-être?
Oui. Alors là, c'est la question fondamentale. Actuellement, on est en train d'équiper sur notre territoire l'Ustacroote, qui n'était pas équipé comme tous les Diwa. Donc, à la fin de l'année, ça sera solutionné. Et quand on est allé faire des réunions d'information sur la commune, on a eu exactement les questions que les Diwa nous posaient il y a quelques années, en disant, voilà, la personne âgée qui est au bout du chemin, comment va-t-elle faire pour son sac poubelle? Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une solidarité. Il n'y a personne qui est laissé seul au bout du chemin. Voilà. Parce qu'il y a des aides qui viennent, des aides à la maison pour le ménage ou pour autre chose. Et tout le monde est sensible avec ce geste du tri et que le sac poubelle soit évacué.
Voilà. Alors, il faut relativiser tout ça. C'est sûr que les cartons devant les bacs poubelles, c'est ce qu'on voit. Quand on a fait les premières mesures en 2016 suite à la réforme, on a regardé ce que devenaient les cartons en général par rapport au gisement. On s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait que 5% des cartons qui étaient mis au mauvais endroit. Alors, on pourrait augmenter ce chiffre de ce qu'on trouve effectivement un peu plus que la normale dans les colonnes bleues et jaunes, parce qu'il y a effectivement des cartons dans ces colonnes qui ne devraient pas y être. Mais il faut relativiser ça. Au final, ils sont triés, au final, ils sont compactés. Ce serait mieux qu'ils n'y soient pas, qu'ils aillent directement en déchetterie. Mais globalement, même si on croit voir beaucoup de cartons, ils sont très très bien triés dans le Diwa. Ça, c'est la première chose.
Et donc la benne qui est destinée à ça en déchetterie a augmenté, par exemple. Vous voyez qu'elle a...
Oui, les tonnages de cartons en déchetterie sont toujours très bons. Ouais. Donc là, j'ai pas les chiffres en tête, mais on collecte autour de 350 à 400 tonnes de cartons purs en déchetterie. Donc c'est beaucoup, c'est autant que la colonne papier. Donc le tri est plutôt bien fait. Ensuite, le geste, est-ce qu'on peut le faciliter? Ça, c'est l'organisation de chacun. Donc on a eu une animation auprès des professionnels cet été, donc, qui était financée d'ailleurs par Citeo aussi, pour leur donner quelques trucs et astuces qu'on peut très bien avoir aussi chez soi. Comment on gère ses déchets? Il y a des poubelles qu'il faudrait sortir tous les jours ou tous les deux jours, son compost quand on a du compost. Et je vous conseille d'en faire parce que c'est autant de moins dans la poubelle, hein. C'est encore un tiers de notre poubelle classique et il faut le sortir. Et ben, ça sent mauvais vite dans la cuisine, donc on le sort et c'est près de chez soi, le compost dans son jardin, on peut le sortir tous les jours. Sa poubelle classique, on va la sortir toutes les semaines, son tri peut-être aussi. Par contre, des cartons, des cagettes, si on a les moyens dans un petit coin de cave, un petit coin de grenier ou un recoin d'entrée de faire un petit tas, et au moment où on a un coffre complet ou la famille qui passe si on n'a pas de voiture ou des amis, de demander de le porter en déchetterie. Voilà. Alors ça paraît une contrainte au début, parce que ce n'est pas l'habitude qu'on a, mais si on s'organise, ça devient vite une habitude qui prend du sens et qui contribue à ce qu'on atteigne des taux très très importants de tri dans le Diwa.
Alors, je vous l'avais déjà faite, mais je vais la refaire parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, le service de collecte, on le paye déjà, et puis l'aller-retour en déchetterie aussi ».
Oui, ça se comprend. Ça se comprend. Effectivement, chaque fois qu'on vient te voir, tu nous la sors. Mais on va te refaire la même réponse. Hein. On ne peut pas continuer dans les années qui arrivent et les années à lesquelles on doit gérer les services. On ne peut pas continuer à raisonner comme cela. Voilà. Donc, nous, on a un coût du service qui est au réel. On essaye de s'y tenir. Hein. Voilà. Et après, ce que les abonnés, ce que les foyers doivent payer, c'est vraiment le coût du service. Et quand il y a des dérapages, voilà, là, ça fait des heures en plus, des moyens en plus. Et là, il y a des dépassements. Donc, il faut quand même que tout le monde continue à jouer le jeu. Voilà. Et puis, je voudrais rajouter par rapport au carton que notre ami de Citeo qui vient nous voir souvent, avec qui on peut discuter, il aime bien le territoire et ça, je le comprends. Et donc, notre ami de Citeo, notre référent, on lui dit aussi que dans le Diwa, qui est certes un territoire un petit peu de la ruralité, éloignée. Il y a beaucoup de livreurs qui viennent visiter. Tout le monde commande aujourd'hui sur Internet. Et vous voyez, quand vous commandez, bon, je vais prendre un exemple, hein, un livre, eh bien, vous recevez un carton qui est disproportionné. Et ça fait des déchets qui sont énormes. Et des déchets, donc carton, plastique, billes de polystyrène. Voilà. Alors il faut que là, il y ait des remontées en haut lieu pour que ça se soit géré. Et que ce ne soit pas le territoire qui a la responsabilité de le gérer.
J'allais justement poser une question qui allait dans ce sens. Est-ce que le volume de carton, de papier dans l'ensemble, vous paraît avoir augmenté du fait peut-être qu'il y a une modification de l'emballage, une sorte de conscience, j'allais dire, écologique qui est en train de se prendre en plus haut lieu et qui, comme ça, descend sur une partie des déchets qu'on a? Ah, ça va un peu dans le même sens de ce qui était dit là à l'instant. Mais...
Alors, au niveau national, il faut savoir que les papiers sont un gisement qui diminue. Donc, on a de moins en moins de papiers et de petites cartonnettes, globalement, mais ce sont surtout les papiers qui diminuent.
Ça s'explique peut-être par la dématérialisation informatique.
Exactement. Ouais. Exactement. Au niveau des cartons, je n'ai pas les chiffres en tête. Je pense que c'est plutôt à la hausse. Et effectivement, les livraisons doivent y contribuer. Mais ça, je n'ai pas de stats. Je ne peux pas vous le garantir. Voilà. Nous, c'est plutôt stable au niveau carton. Et on a augmenté au niveau papier. Mais c'est parce qu'on est allé chercher un gisement qui, auparavant, était dans les poubelles mal triées ou dans les encombrants ou au milieu des cartons. Voilà.
Ce qui marche bien dans le DIY, c'est le carton à pizza, la boîte à pizza.
Ah oui, voilà. Oui. Ouais. Ou la boîte à clairette, hein.
Aussi.
Alors, un peu de technique, comment on travaille avec Citeo?
Alors, Citeo, c'est comme tous les éco-organismes, hein. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un organisme qui a but non lucratif, qui collecte toutes les éco-contributions qu'on paye à chaque fois qu'on achète un produit qui a été taxé parce qu'il a...
L'éco-taxe, là, on voit partout, écrit partout, plus 0,01.
Voilà.
Ouais,
donc le point vert que vous voyez, c'est que les gens ont payé une éco-taxe. Ça ne veut pas dire que c'est recyclable. Si c'est recyclable, c'est un petit bonhomme qui s'appelle le Triman, qui a trois flèches qui sortent de sa main. Et ça veut dire que le produit a payé la taxe et qu'il est également recyclable. Donc Citeo collecte ça et ensuite redistribue par trois voies. Aide à la collecte, aide à l'éco-conception et aide au tri derrière et à la transformation, donc à la valorisation.
Donc a priori, ils aident tout le monde.
Alors,
parce que là, vous parliez de répondre à des appels d'offres.
Ils aident toutes les collectivités, donc de manière standard, avec des prix de reprise qui sont normés. Donc ça, il y a le prix de vente du matériau, mais aussi du soutien à la tonne, qui est fonction de votre performance. Donc plus vous triez, plus la collectivité gagne. Donc Citeo verse tous les ans aux alentours de 170 000 euros à la communauté des communes du Diois. C'est l'équivalent de 10% de la fiscalité qu'on prélève auprès des ménages et des campings pour collecter les ordures ménagères. Donc c'est une aide substantielle, hein, qui fait que les colonnes de tri sortent moins cher, les tonnages qu'on met dedans sortent moins cher que les ordures ménagères. Sinon, ça ne serait pas le cas, hein, puisqu'on trie des volumes plus faibles avec des camions identiques. Donc c'est bien parce qu'il y a cette aide qui arrive que ce tri est moins cher. Voilà.
Mais ça ne tombe pas comme ça du chapeau. Il y a un travail qui est fait par les services et ce n'est pas un petit travail. Il y a des fiches de suivi, il y a des quantités hebdomadaires, mensuelles qui partent. Et Citeo, il faut être réactif parce que, OK, ils financent, mais si jamais il y a un petit dérapage, on n'a pas droit à l'erreur non plus. Mmh. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui est évacué par nos services et qui est évacué du DIY, tout ça est pesé, calibré, géré, vérifié. Et il faut avoir les gestes pour effectuer un bon tri. C'est ça qui nous permet d'être honnête avec nous-mêmes et avec tout le monde et avec nos financeurs.
Voilà. Donc ça, ce sont les aides courantes, hein, donc à la tonne, mais aussi à la qualité du tri, comme vient de le dire Jean-Pierre. Et nous, on a répondu à deux appels à projets parce que Citeo encourage à aller vers des nouveaux modes de collecte. Donc le premier appel à projet, c'était de regrouper sur les mêmes points d'apport la poubelle classique et les trois poubelles de tri. Donc ça, c'est une tendance nationale. Alors, on est un peu précurseur, mais c'est une tendance qui devient nationale aujourd'hui, des consignes qui deviennent nationales, parce que ça, on a démontré, ici et ailleurs, que quand on regroupait toutes les poubelles et qu'on offrait le tri à chaque fois que vous pouviez jeter votre poubelle classique, les gens triaient plus, simplement parce que l'offre mécanique est là. Ça, c'est le premier appel à projet qu'on a eu. Et le deuxième appel à projet, c'est l'optimisation de la collecte, c'est-à-dire pour que ces flux de tri supplémentaires qu'on va collecter ne soient pas une charge pour la collectivité, on cherche le moyen d'optimiser la logistique. Le camion compacteur, l'organisation des tournées. Donc c'est à ça qu'on travaille et ils nous demandent des indicateurs. Donc là, j'ai une feuille avec moi, j'ai une quinzaine d'indicateurs qu'on remplit. Ben, donc le nombre de colonnes, bon, ça c'est facile. Hein. Le taux de places de camping desservies qui augmente. Hein. On était à 20% en 2014 qui bénéficiaient du tri. On flirte aujourd'hui avec les 85%. Donc là, je parle des campings qui ne sont pas desservis par un point public, hein, des campings qui ont un site propre. Voilà. On a le tonnage des ordures ménagères qui décroît, par exemple, hein, qui est passé de 3100 tonnes en 2014 à 2400 cette année, en tendance, voire un peu moins. Le taux de corps plat dans les OM, c'est-à-dire qu'on mesure ce qui reste comme papier et carton dans ce qui devrait être mieux trié, c'est-à-dire les ordures ménagères. Voilà. Ensuite, on va mesurer ce qu'on a dans chaque colonne, la bleue, la jaune. Le poids et le volume de chacun des composants de la colonne, donc le carton, les cartonnettes, le papier, donc ça on mesure. Et ensuite on a d'autres indicateurs, donc on a les tonnes de tout ça, on a le taux de papier dans ce qu'on appelle la colonne corps plat, carton et papier là, le taux de papier qui est descendu quand on a mis plus de colonnes, les jaunes et les bleus, et puis qui remonte, c'est-à-dire qu'on trie de mieux en on a mis plein de cartons au démarrage, et puis petit à petit on s'aperçoit que les gens les remettent aux bons endroits. Voilà, et puis là, on a d'autres indicateurs sur cet appel à projet. C'est le nombre de conteneurs levés par semaine. Et là, on est en tendance à baisser ce nombre. C'est-à-dire qu'on a mis plus de conteneurs sur le territoire, mais petit à petit, on ne va lever que ceux qui sont pleins, donc pour optimiser nos tournées.
C'est le rapport à la performance du camion ou au fait que vous...
À notre connaissance, à la connaissance des chauffeurs, des tournées. C'est-à-dire, quand on fait une tournée, on cherche à la rallonger en kilomètres. Et à ne ramasser que les points qui sont pleins. C'est-à-dire qu'à ne pas faire des manœuvres.
Les chauffeurs vont finir par savoir que tel village ou telle zone du village se remplit moins vite qu'une autre.
Ils le savent. L'expertise du chauffeur est largement au-dessus de celle de l'ingénieur. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Donc, ils le savent tout de suite. Et on regarde les tonnages qu'on évacue chaque semaine. Donc, voilà, le tonnage hebdomadaire, il est passé de 7 tonnes collectées en 2014, par exemple, à 13 tonnes cette année. Et ça, je le mets en rapport avec les kilomètres parcourus. Et on s'aperçoit que, ça c'est, je trouve que c'est l'indicateur final le plus intéressant, c'est le kilomètre parcouru par tonne collectée. Donc à chaque fois qu'on collectait une tonne en 2014, on parcourait 54 kilomètres à peu près. Cette année, on va parcourir moins de 50 kilomètres, 49, et la tendance c'est d'aller vers 45. Et ça c'est important parce qu'avec le prix du gasoil qui augmente, si vous augmentez vos tonnes collectées, et si vous augmentez vos kilomètres parcourus, ça va vous faire plus cher à la tonne, quoi. Donc il faut faire attention à ça.
Sans compter que vous prenez l'Uslacrotte avec, ça fait un bon kilomètre.
On y est déjà sur les papiers. Sur les papiers, on y est déjà. Mais en allant collecter les ordures ménagères à l'Uslacrotte, on fait une économie substantielle de 15 000 euros par an. Donc il n'y a pas de souci d'y aller, voilà, en rendant le service nous-mêmes.
Dans des statistiques plus fines encore et qui pourraient avoir aussi un intérêt, les avez-elles vous faites? Par exemple, à la hauteur d'un village ou d'un quartier, son évolution par rapport à son niveau de collecte de tri, ce qui permettrait par exemple de cibler, je vais citer mon village, Barnave, bon voilà, comme ça tout le monde le sait, mais qui pourrait à un moment donné faire l'objet d'une animation spécifique parce qu'il y aurait vraiment un manquement de collecte, sans stigmatiser les gens bien sûr, hein, mais est-ce que ça pourrait être possible ce genre de...
Alors, un jour peut-être, on a fait...
Vous auriez déjà les statistiques pour ça?
Alors, sur certains points, on a déjà fait deux statistiques en 2015 et 2017. Donc, je pense à Méros ou au Mazel, a dit. En fait, ce qu'on appelle des caractérisations, peser tout ce qu'il y a dans une colonne d'ordures ménagères, et puis dans celle d'à côté de papier, et puis dans celle d'à côté de corps creux, c'est un sacré boulot. À chaque fois, on y passe. Pour peser les trois ensemble, il faut passer 6 heures de travail à deux personnes, tout enregistrer, faire le schéma, faire la petite publication qui va bien. Et en fait, on n'a pas le temps aujourd'hui matériel dans le service. Alors, la réflexion est en cours. On verra ce qui se passe au niveau des décisions, mais d'avoir quelqu'un qui fait plutôt de la prévention et de la sensibilisation, qui soit là plus à temps plein, ça fait partie des arbitrages qui seront débattus cette fin d'année pour le budget de l'année prochaine. Voilà. Et qui sont passés en commission.
On est sur le sujet, voilà. Et c'est vrai que ça a un coût. Au niveau du budget, on va voir si c'est possible ou pas.
Ouais. Ce coût-là serait peut-être couvert si cette personne développait le compostage. Il faut savoir que la loi oblige au compostage collectif. enfin, en tout cas, à la collecte sélective des déchets fermentés cibles, et que le compostage est le système le moins coûteux. Donc, c'est quelque chose qui est appelé à développer dans tous les territoires, et sur le Diois en particulier, dans les prochaines années. En tout cas, avant 2022, ce sera obligatoire. Voilà. Donc, on est en route pour organiser ça.
Un camion tout neuf, des statistiques qui vont en progression. Mmh. Vous êtes donc là dans une phase de communication autour de cette collecte particulièrement du papier et des cartons.
Oui, c'est l'objectif qu'on a et qui nous a été fixé aussi par Citeo. Ils nous ont dit c'est très bien de faire ça. Nous, on est intéressés par les résultats, le retour d'expérience, et on est intéressés que vous le fassiez savoir aussi auprès de votre population. Donc, et c'est d'autant plus chouette de venir témoigner que les résultats sont là. On aurait pu venir pleurer en disant « Ouh là là, ouais. On a payé un camion très cher » et en fait, les gens tripassent. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'offre, la qualité du service qui est proposée est entraînante et les citoyens jouent le jeu. Donc ça, c'est vraiment chouette à souligner.
C'est ça qu'on pourrait retenir alors. En bon Diois, on a fait ce qu'il fallait.
Exactement.
Voilà.
Ce que je peux rajouter, c'est que nos équipes avant étaient composées de chauffeurs Reaper.
Tout à fait.
Tout à fait, voilà. Et Reaper, c'est pas un métier. On a dit, c'est pas un métier. Le gars, il faut qu'il arrête de pousser son conteneur, quoi. Et aujourd'hui, nos gars ont carrément changé. Ils ont évolué. C'est des nouveaux métiers. Ils sont chauffeurs grutiers. Et donc, ils sont, bien sûr, ils sont seuls à bord dans leur cabine, mais ils ont un confort de conduite, ils ont un confort journalier.
Un petit joystick pour jouer.
Voilà, tout à fait, à fait. Et là, on peut les féliciter parce qu'on avait dit, oula, certains auront peut-être un peu des difficultés. Eh bien non. Eh bien non, ça s'est vraiment passé à 300 à l'heure et tout est parfait.
Alors là, le moral des troupes, j'allais dire, ça joue pas mal. Est-ce que vous avez senti quelque chose parmi les opérateurs, justement, qui un engouement, une...
Alors, la réponse du politique, hein, je ne suis pas le manager. la réponse du politique, c'est oui. On a vu une équipe qui est beaucoup plus solidaire, une équipe qui est responsable. Et une équipe qui est bien au courant de ce qu'il faut faire au niveau du tri et ne pas faire. Voilà. On a eu notre préposé Charlie, qui est la déchetterie de Die, qui a fait un petit concours l'année dernière. Et il est sorti premier au niveau national. Il a gagné.
C'est vrai, j'avais lu ça.
Avais lu ça, voilà. Ouais. Voilà. Donc, ouais, tu vois qu'il y a même...
Il a gagné le prix du meilleur agent de déchetterie.
De déchetterie, ouais. Ouais. Par ses connaissances du tri. Ouais.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une chouette question, parce que c'est la partie souterraine que les gens ne voient pas. Eux, ils voient le service et ils l'utilisent de mieux en mieux, et à bon escient. Il y a dessous tout un travail sur l'évolution professionnelle qui est permise, le confort de travail. Alors, les agents en attendraient plus, hein, parce qu'on n'est pas encore bien au point sur les locaux techniques. Donc, il faudra attendre de rénover la déchetterie de Die dans les deux prochaines années. Pour avoir des locaux techniques dignes de ce nom. Donc les agents attendent encore ça, mais sinon, la qualité des matériels est allée croissant. Les horaires de travail sont devenus moins erratiques, avec moins de changements, avec des amplitudes de travail sur la semaine qui ont diminué pour les chauffeurs. Avant, ils étaient sur 6 jours, ils sont repassés sur 5. Donc il n'y a plus de changement d'horaire, les plannings sont tenus, donc à 99%, sauf gros accidents, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une panne mécanique ou d'un arrêt maladie. Donc évidemment, on adapte, parce que le service doit être rendu, mais en tout cas, c'est beaucoup plus lisible pour les gars. La technicité est montée, la capacité de former les gars est là, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec des vrais plans de formation qui sont suivis, réalisés, alors qu'avant, ils n'avaient pas la possibilité d'aller en formation parce qu'il fallait tenir le camion, pousser les bacs, la déchetterie. Et l'organisation telle qu'elle était auparavant ne permettait pas d'avoir une formation digne de ce nom. Donc aujourd'hui, ils ont tous cette possibilité-là de monter également et d'avoir un plan de carrière pour ceux qui s'aventurent dans les concours, etc. Donc on les incite à faire ça. Donc ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même un axe fort. Enfin, Jean-Pierre le souligne toujours en disant ce changement de métier. Mais dessous, il y a tout ça. Il y a tout ça et c'est une chouette aventure. Rémi Aubert, qui est notre responsable d'exploitation, qui vient de Valence Aglo, qui a bourlingué à d'autres endroits avant, a toujours plaisir à dire qu'il a rarement vu une équipe aussi impliquée. Et c'est la réalité. C'est, voilà, on a des gars qui font le boulot.
En plus de leur avoir sorti les mains de la boue, puisque c'était ça, c'était comme ça que c'était appelé avant.
Et qu'ils ont le temps de nettoyer les points propres, même si ça s'est pas trop vu cet été, parce qu'on a eu des congés longue maladie Et du coup, on a repris les nettoyages des points qui n'étaient pas si propres qu'on aurait aimé. Donc voilà, il y a eu une grande campagne de nettoyage, de remise à niveau de la signalétique pour bien expliquer ces histoires de carton, tant sur la colonne jaune que sur la colonne bleue. Donc petit à petit, vous allez voir la signalétique changer et les colonnes devenir neuves.
On va même apparaître l'amende.
Voilà.
Hein.
Alors oui, c'est possible qu'on ait donné quelques indications sur les amendes. Oui, voilà.
Ouais. Pour continuer sur la technique, alors là, maintenant, vous avez des camions super modernes. Est-ce que c'est vous-même qui en assurez l'entretien ?
Non, on a... Nos camions, il y en a un qui est neuf, donc il est sous garantie. Donc c'est le garage qui le prend en charge lorsqu'il y a un problème. La grue, c'est pareil. Et actuellement, on a un camion de location. Donc on va rendre au printemps prochain, avant la saison 2019, touristique 2019. Et on aura un autre camion neuf, donc qui sera garanti aussi. Voilà. Après, on essaye quand même de faire tout ce qui est petite mécanique, de la faire faire localement. Et il arrive aussi que nos gars mettent un peu la main à la pâte. Voilà.
Mais on n'est clairement pas sur des matériels qui permettent de faire les réparations soi-même. C'est bourré d'électronique. Donc voilà, il y a des interventions des fois qui demandent des gars qui viennent de Lyon, d'Avignon, où on a même eu une équipe des Pays-Bas qui est descendue sur un problème de grue au moment où elle était en panne. Voilà, c'est des problèmes de développement informatique qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Par contre, ça revient au sujet précédent sur le personnel. En plus de tout ce que j'ai dit, il y a eu aussi une stabilisation de l'emploi. C'est-à-dire que sur 10 équivalents temps plein qu'on avait dans l'équipe, 9,5 sur l'équipe, il faut voir qu'à l'époque, il y en avait 3 qui étaient des saisonniers ou des personnes qui étaient remplaçants permanents, mais sans statut. Aujourd'hui, c'est simplement 3 mois de l'été où on prend un remplaçant qui a un statut de saisonnier, et un seul. Donc sur 9 équivalents temps plein et demi, ça n'a quasiment pas bougé, ça a un tout petit peu baissé. Aujourd'hui, on a 9 titulaires et 0,25 remplaçants. Donc les emplois ont été stabilisés et ça a permis, dans les basses saisons, je vous parlais de l'entretien des points de collecte, d'internaliser tout un tas de petits travaux qui avant étaient faits par des tiers ou n'étaient pas faits, tout simplement, comme une partie du nettoyage et du rangement, des réparations de bennes. Donc il y avait du matériel qui se dégradait. Aujourd'hui, on peut faire tout ça et c'est la diversité des métiers aussi qui progressent et leur intérêt pour les agents, de ne pas toujours faire la même chose.
Pour terminer sur les éléments de com, on peut trouver plein d'informations sur le tri, sur les différents sites internet, supports de la Comcom, on peut les rappeler.
Sur le site internet www.paysdiwa.fr, vous avez une rubrique déchets qui est pratico-pratique. Vous avez le guide du tri qui est en ligne. Vous pouvez l'avoir chez vous, il suffit de le demander si vous l'avez perdu. Il est donné gratuitement avec votre carte de déchetterie, donc on en a encore en stock. N'hésitez pas si vous en voulez.
Et un petit magnète.
Un petit magnète à mettre sur son frigo pour l'essentiel, voilà, et que vos enfants vous rappellent que le mauvais geste, il ne faut plus l'avoir dans la maison, voilà. Donc ils sont très bons pour rappeler ça, les enfants. Voilà, donc, et puis voilà, toute autre documentation qu'on tient à votre disposition. Sur le site, vous avez aussi des liens vers les différents sites de Citeo. Et il y a des outils très pratiques, hein, que ce soit des flashcodes. Devant votre colonne aussi, vous pouvez flasher le flashcode qui est mis sur les colonnes, sur nos nouvelles étiquettes. Là, et vous avez directement le produit que vous voulez jeter et on vous dit dans quelle colonne le mettre. Voilà, donc ça, il y a des applications que Citeo développe qui sont intéressantes. J'ai oublié le nom. Je vais me faire taper sur les doigts quand ils écouteront l'émission.
Cliquez sur Citeo, auditrice, auditeur. Jean-Pierre, Philippe, merci. On se retrouve dans quelques temps pour un nouveau point.
Ouais.
Voilà.
On parlera déchetterie.
Voilà, c'est ça. Merci. Dans 2 ans, alors, c'est ça.
On va commencer avant, parce que celle de Luc et de la Motte Chalancon, les travaux devraient débuter en début 2019. Donc, voilà.
Donc
2 déchetteries neuves déjà à la fin du premier semestre.
Bon, à très bientôt, alors.
Merci.
Au revoir.
Interview. Okay. Bye-bye.